Vous écoutez, on lit pour vous.
Le délai d'attente en orthophonie s'étire pour les 5-6 ans. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 22 janvier 2025 dans Le Devoir. Le temps d'attente moyen pour la consultation d'un orthophoniste en CLSC s'allonge au Québec. Chez les enfants âgés de 5 à 6 ans, il a augmenté de 2 mois entre janvier 2023 et janvier 2024, selon des chiffres obtenus par Le Devoir. Une situation qui préoccupe des professionnels de ce domaine, puisque les difficultés de langage peuvent compliquer le parcours scolaire. On enseigne par l'oral, ce qui fait que la compréhension de l'enfant doit être au rendez-vous si on veut qu'il l'apprenne. C'est donc important qu'on détecte les problèmes de langage le plus tôt possible, affirme Paul-André Galland, président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Les données scientifiques nous disent d'ailleurs que le délai raisonnable pour voir les enfants qui sont à risque devrait être d'1 à 3 mois, ajoute-t-il. D'après les chiffres fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le temps moyen d'attente des Québécois de 5 à 6 ans pour l'obtention de services d'orthophonie était de 410 jours en janvier 2024. Il était d'environ 350 jours l'année précédente. Le nombre d'enfants de cette tranche d'âge en attente de services est d'ailleurs passé de 1000 à 1051 durant cette période. Pour expliquer la hausse du temps d'attente, le ministère dit observer une augmentation du volume d'aiguillage vers ces services qui serait due à des initiatives gouvernementales de dépistage. Parmi elles figure notamment le programme Agir tôt, destiné aux petits de 0 à 5 ans de l'ensemble de la province. Or, si personne n'est disponible pour intervenir après le dépistage, on travaille un petit peu dans le vide, soutient M. Galland. On fait grimper le nombre de gens dépistés qui sont en attente et on crée de l'anxiété chez les parents. Différence entre les régions. Les délais de consultation d'un orthophoniste en CLSC varient grandement en fonction de la région où l'on habite, soulève Paul-André Galland. Cela est très préoccupant parce qu'on devrait avoir une égalité des chances un peu partout, soutient le président de l'Ordre professionnel. À certains endroits, le temps d'attente moyen a triplé entre janvier 2023 et janvier 2024 pour les enfants de 5 à 6 ans. Au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, par exemple, il est passé de 138 à 417 jours. L'établissement dit observer une demande croissante pour les services en orthophonie, tout en soulignant la difficulté de recruter des professionnels en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui touche le secteur. Au Québec, les conditions de travail dans ce domaine ne sont pas toujours agréables, relève Marie-Philippe Rodrigue, orthophoniste et présidente de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. Elles font souvent en sorte que les professionnels s'essoufflent sous la lourdeur administrative. Puis, il y a des endroits où l'on aurait besoin de postes, mais où il n'y a juste pas d'affichage, aussi, affirme-t-elle. Jointe par Le Devoir, la Société d'État Santé Québec reconnaît qu'il manque de ce type de professionnels pour répondre à la demande dans la province. Elle mentionne toutefois que le financement d'Agir tôt, octroyé aux établissements depuis 2019, a permis notamment l'embauche de près de 175 orthophonistes supplémentaires. Une révision des pratiques professionnelles est en cours afin d'améliorer nos façons de faire et de nous permettre, à terme, d'accroître l'accès à ces spécialistes, ajoute la conseillère média Marie-Ève Despatie-Gagnon. Entre les mailles du filet. De façon générale, les longs temps d'attente en orthophonie ne sont pas un phénomène nouveau au Québec, précise Paul-André Galland. Mais ça demeure préoccupant, dit-il. En raison du manque de ressources actuelles, Marie-Philippe Rodrigue s'inquiète d'ailleurs de voir certains cas moins sévères, qui ne sont pas priorisés, passer entre les mailles du filet. Ces enfants risquent alors d'accumuler des difficultés au fil de leur parcours, prévient-elle. Quand on regarde le cheminement scolaire, il y a peu de services offerts en orthophonie et en audiologie. Par exemple, après le premier cycle du primaire, il y en a dans les centres de services scolaires, mais on n'a pas la même quantité de ressources. Puis, une orthophoniste au secondaire, c'est très rare, relève-t-elle. L'une des pistes de solution pour réduire les délais d'attente serait de diversifier les façons d'intervenir auprès des enfants, avance Paul-André Galland. Ceux qui sont dépistés n'ont pas tous des difficultés très graves. Il est possible que plusieurs puissent bénéficier, par exemple, d'interventions de groupe. De son côté, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal mentionne avoir instauré diverses initiatives pour tenter de répondre aux besoins de sa population. Il dit avoir déployé, entre autres, un programme visant à fournir des stratégies de stimulation globale du langage. L'orthophoniste est alors jumelé à des éducateurs spécialisés, ce qui permet d'offrir le service à plus d'enfants, dit-il. Santé Québec affirme pour sa part que la responsabilité de surveiller le développement des petits est partagée. Agir tôt mise donc sur le travail, en partenariat avec les acteurs clés impliqués auprès des enfants et des familles, notamment les services de garde éducatifs, relève la Société d'État. C'était « Le délai d'attente en orthophonie s'étire pour les 5-6 ans », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 22 janvier 2025 dans Le Devoir.
Une bonne idée d'utiliser de l'eau chaude? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 février 2025 dans La Presse. Un lecteur, Serge Picard, demande: est-il mauvais d'utiliser l'eau chaude du robinet pour cuisiner à cause des métaux ou des virus? Il est préférable d'utiliser de l'eau froide pour cuisiner, confirme une spécialiste du sujet, Michel Prévost, de Polytechnique Montréal. La dissolution des métaux, dit-elle, augmente avec la température. Sauf dans des bâtiments récents, il y a présence de matériaux avec du plomb dans la plomberie. Pour préparer la formule à nourrisson, la pire chose à faire, selon Mme Prévost, est d'utiliser de l'eau chaude. Les nourrissons sont les plus sensibles aux effets du plomb et ils consomment une grande quantité de liquide par masse corporelle, précise-t-elle. Puisque l'eau chaude est moins utilisée, elle stagne davantage et est plus susceptible d'être touchée par la dissolution des métaux. Il peut y avoir une croissance bactérienne, particulièrement si la température du chauffe-eau n'est pas assez élevée, 45 degrés Celsius plutôt que 60 degrés Celsius, dit l'ingénieur civil. Michel Prévost fait partie d'un comité international qui examine la question. Le comité compte recommander le maintien des chauffe-eau à 60 degrés Celsius parce que, lorsqu'on abaisse la température, les risques d'infection pour les personnes de plus de 60 ans ou sous chimiothérapie ne sont pas négligeables, indique-t-elle. La question des chauffe-eau a été étudiée en profondeur il y a une vingtaine d'années, quand des propositions d'abaisser leur température ont vu le jour pour réduire les risques de blessures liés aux bains trop chauds. Maintenant, elle revient au premier plan en raison des inquiétudes sur les changements climatiques et l'envie de plusieurs de réduire leur consommation d'énergie. Même si on ne boit pas d'eau chaude, un chauffe-eau à température trop basse peut poser problème quand on prend sa douche parce que certaines bactéries, comme les légionelles, peuvent pénétrer dans les poumons quand on prend sa douche, note Mme Prévost. Pour cuisiner des pâtes. Peut-on utiliser l'eau chaude pour cuisiner quand on fait bouillir l'eau suffisamment longtemps, par exemple, pour faire cuire des pâtes? Non, parce que le plomb s'accumule dans les pâtes et le riz. Michel Prévost répond: le plomb colle à tout ce qui ressemble à du riz ou des pâtes. Il va donc se concentrer. On avait fait une étude qui montrait qu'une assez petite dose de macaroni est assez pour intoxiquer un enfant. Et pour le brossage des dents, pour les personnes aux dents sensibles à l'eau froide? J'ai eu la même question pour des cas de plomb modéré dans un hôpital pédiatrique il y a quelques semaines, dit Mme Prévost. Ce n'est pas un petit contact de gencive qui va faire une plombémie. Il faut vraiment la boire. Vous avez une question scientifique? Écrivez-nous. En savoir plus, 41 800, nombre d'entrées d'eau en plomb qui doivent être changées à Montréal d'ici 2032. Source, Ville de Montréal. C'était une bonne idée d'utiliser de l'eau chaude, un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 février 2025 dans La Presse.
La lutte entre au musée, un texte de Dominique Tardif, paru le 20 mars 2024 dans La Presse. Au centre du Ring, érigé à côté de la billetterie du Musée de la civilisation de Québec, la lutteuse Lou O'Farrell, à qui avait été confiée l'animation de l'inauguration de l'exposition « Le Québec dans l'arène », n'en revenait pas. « C'est fou! Jamais de ma vie, je n'aurais pensé que la lutte entrerait au musée. » En 2007-2008, quand je commençais à lutter, les gens à qui je parlais de lutte me regardaient toujours un peu drôlement, a raconté à La Presse celle qui a tout récemment franchi le cap des 500 jours en tant que championne junior heavyweight de la North Shore Pro Wrestling, la Fédération de Québec qui présente certains de ses galas au diamant. Et c'est ce même mélange d'incrédulité et d'enchantement qui illuminait le regard des invités présents le matin du mardi 19 mars 2024, parmi lesquels plusieurs représentants de la communauté de la lutte qui se souviennent trop bien de la longue époque durant laquelle leur milieu a suscité le rire des néophytes, voire le mépris. Pour plusieurs de ces hommes, tantôt colorés, tantôt taciturnes, l'idée même qu'un musée, ainsi qu'un des plus grands metteurs en scène au Québec, consacre une vaste exposition à leur discipline, souvent prise de haut compte tenu de sa nature prédéterminée, était aussi invraisemblable que de voir le Brooklyn Brawler river les épaules de Hulk Hogan au tapis. Robert Lepage, à Saint-Magloire. « Quoi? Ils ont recréé la tour? » s'exclame sous nos yeux, comme un gamin, Jean Baillargeon Junior, fils d'un des six frères Baillargeon, Jean, Charles, Adrien, Lionel, Paul et Antonio, du comté de Bellechasse, qui, des années 1940 aux années 1970, ont semé autant la terreur que l'émerveillement partout dans la province, grâce à leur démonstration de force et leur prise de l'ours. « Ça, c'est ma preuve d'identité », lance-t-il en nous tendant sa paluche d'ours, plus grosse que nos deux mains réunies. Le gentil géant, d'un âge respectable, n'a jamais eu la chance de voir son père lutter à la tour, ce haut lieu du divertissement populaire dont les portes ont été ouvertes de 1936 à 1965 dans le quartier Saint-Roch de Québec. D'où son émotion. On n'y croyait pas quand on nous a appelés pour nous dire que Robert Lepage s'intéressait au frère Baillargeon, a expliqué le colosse, dont la famille tient un musée à Saint-Magloire, où le créateur des sept branches de la rivière Ota s'est un jour pointé avec ses collaborateurs Steve Blanchette et Nadia Bellefeuille. Quelques pièces de leur collection passeront la prochaine année au musée de la civilisation. « Ça, c'est la veste de mon grand-père !» s'exclamait pour sa part Robert Saint-Jean, petit-fils du Maurice Richard de la lutte. Yvon Robert. Nul besoin de le prier afin qu'il nous délecte de ses anecdotes au sujet du géant ferré pour qui il a déjà préparé le déjeuner, un pain au complet, avec sa grand-mère. Pour moi, c'est une grande journée. Miroir, miroir. Entre les mains de quelqu'un d'autre, cette exposition aurait assurément pu être beaucoup plus banale ou du moins ne s'adresser qu'aux connaisseurs. Mais la patte d'Ex Machina se sent partout dans les quatre grandes salles que compte le Québec, dans l'arène et dans lesquels Robert Lepage s'est amusé à placer le miroir au service de sa mise en récit de l'histoire de la lutte au Québec. Un choix qui n'est pas innocent, le miroir évoquant la figure du double, très éclairante quand vient le temps de réfléchir au monde de la lutte, où des hommes, et de plus en plus de femmes, incarnent souvent des versions plus vraies d'eux-mêmes, mais à qui ce théâtre de muscles et de sueurs permet aussi d'exacerber ce que la race humaine a de plus vil. Autrement dit, à la lutte, la frontière entre la réalité et son reflet fictif s'avère parfois très mince. Le Québec dans l'arène. Les visiteurs seront ainsi invités à pénétrer dans un vestiaire dans lequel un miroir truqué leur permet de se voir parmi les héros du matelas qui attendent leur tour d'aller faire leur cabriole. Diffusée sur un petit écran, dans cette pièce, une entrevue inédite avec le légendaire et rarissime Rick Martel, aussi humble à la ville que jadis narcissique dans le ring. Ça a été très demandant pour mon corps, lutter de 9 à 10 fois par semaine, confie en image l'ex-star de la WWE, une occasion de se rappeler que pour les articulations de ceux qui nous ont mis des étoiles dans les yeux, la lutte n'avait absolument rien de factice. J'en ai subi les conséquences. La lutte, c'est nous. C'est dans une grange que s'amorce la visite de l'exposition « Première salle documentant comment la lutte est née » au 19e siècle, de la fesse gauche de l'univers des fêtes foraines et des hommes forts. La deuxième salle célèbre l'âge d'or de la lutte au Québec sous la tutelle de 3 de ses grands personnages, Yvon Robert, Édouard Carpentier et Johnny Rougeau. Dans l'avant-dernière salle, se déploie une gigantesque reproduction de l'extérieur du Madison Square Garden, temple nord-américain de la lutte, où tant de Canadiens français ont triomphé. Il s'agira de la portion la plus « Planète Hollywood » de l'exposition et la plus jouissive pour le grand enfant qui écrit ce texte. L'atomiseur « Arrogance » de Rick Martel, le corset de Luna Vachon, une chaise signée par Bret Hart du Survivor Series 1997, lors duquel s'est produit le Montreal Screwjob. Tout y est. Ainsi que des dizaines et des dizaines de figurines, en échange desquelles on en connaît plusieurs qui accepteraient d'encaisser un Stunner de Kevin Owens. Et parce que, pour Robert Lepage, il est toujours essentiel que le Québec dialogue avec la planète. Le Québec, dans l'arène, se conclut par un voyage dans le monde entier à la rencontre de différentes formes de lutte, comme la Kalari Payatu, la Capoeira ou le Shuai Jiao. Robert Lepage a amené la lutte à un niveau supérieur, se réjouissait le commentateur Marc Blondin, qui a longtemps piloté l'émission Nitro de la WCW à RDS. Il était présent mardi en compagnie de son ami Pierre-Carl Ouellet. Souvent, je me suis fait dire « Ah ouais, t'animes la lutte » sur un certain ton, comme si ça ne valait rien. Alors que pourtant, la lutte, c'est le théâtre, le cirque, le divertissement. La lutte, c'est nous. C'était « La lutte entre au musée », un texte de Dominique Tardif, paru le 20 mars 2024 dans la presse.
Participer aux recherches pour améliorer les traitements VIH-SIDA. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 24 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Pour améliorer tous ces traitements et, éventuellement, réussir même à endiguer les nouvelles contaminations à travers la PrEP, il faut mener des recherches. Pour cette raison, la clinique médicale L'Actuelle lance un appel aux patients pour participer aux cohortes de recherche. Ces études sont essentielles au développement de nouveaux médicaments et de traitements de prévention, comme la PrEP, médicament avant une relation sexuelle, injectable bientôt disponible. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Sam Kadjo, PhD, coordonnateur de recherche académique et clinique à la clinique médicale actuelle. Cette personne œuvre au sein de l'équipe de recherche académique et clinique. C'est une équipe très dynamique, dédiée à la recherche, explique Sam Kadjo, qui en est le coordonnateur depuis 6 mois maintenant. Pour moi, c'est une question d'aider les gens de ma communauté et qui souffrent en raison du VIH. Grandissant en Syrie, il n'était pas permis de vivre qui on était. Il fallait tout le temps cacher son orientation sexuelle. J'ai caché qui j'étais jusqu'à mon arrivée au Canada, il y a 12 ans, où j'ai finalement fait mon coming out. Ici, j'ai l'occasion de travailler avec une équipe superbe. C'est un honneur pour moi de côtoyer les docteurs Régent Thomas, président fondateur de la clinique, et Jason Szabo, directeur de recherche. Ce sont des mentors pour moi. Ils ont tant d'expérience, d'expertise en médecine reliée au VIH-SIDA, mais aussi tout le côté social, humain et comment on peut mieux aider la communauté. J'apprends beaucoup avec eux. Nous avons 12 recherches cliniques en cours et d'autres vont débuter au courant de 2025. Il suffit qu'un patient mentionne son intérêt à son médecin lors d'une rencontre de suivi. Tout est traité anonymement, explique Sam Kadjo, qui, après des études en biologie et chimie, a fait son doctorat à l'Université McGill sur le sujet de l'ARN, avec l'objectif de faire de la recherche et de pouvoir aider les gens de la communauté atteints du VIH. Certaines études en ce moment portent sur les traitements injectables. Ces traitements à long terme sont destinés à procurer à la personne plus d'immunité et les rendre plus adhérents au traitement, poursuit Sam Kadjo. On recherche aussi des individus qui pratiquent le chemsex. Les injectables permettent une meilleure observance du traitement chez les patients qui oubliaient parfois de le prendre chaque jour. En parlant de chemsex, l'étude CHEERS veut particulièrement aider cette population. Si des gens pratiquent le chemsex, c'est important de les impliquer dans cette étude-là pour leur faire connaître les services d'aide psychosociale, dit Sam Kadjo. On recherche 50 personnes pour cette enquête et déjà 15 se sont manifestées en un mois. Québec don de sang est une étude à long terme, menée en collaboration avec l'hôpital Sainte-Justine. Rappelons qu'en 2022, Emma Québec a levé l'interdiction aux hommes homosexuels et bisexuels de donner du sang. Cependant, il y a un hic. Si quelqu'un est sur la PrEP, Emma Québec peut supposer que cette personne est sexuellement active et potentiellement porteuse d'ITSS, infection transmissible par le sexe et par le sang, continue Sam Kadjo. Ce n'est pas très clair dans les critères d'Emma Québec, mais elle peut refuser un don d'un homme qui est sur la PrEP. Avec cette étude, on veut démontrer que les hommes homosexuels ne sont pas plus porteurs d'ITSS que d'autres groupes de la population et qu'en fait, ils sont plus protégés que d'autres parce qu'ils sont sous la PrEP, justement, et suivis. Actuellement, pour pouvoir donner du sang quand on est sur la PrEP, il faudrait arrêter le traitement et attendre une période de 4 mois. Et si cette PrEP est un médicament injectable, il faut prévoir une période de 2 ans après la dernière injection. Mais quand une personne stoppe la PrEP, elle peut s'infecter et infecter les autres. Emma Québec a décidé de cette règle sans réellement faire d'études à ce sujet. Cette étude-là, réalisée avec l'hôpital Sainte-Justine, va permettre de ramasser des données scientifiques. Jusqu'à présent, 300 personnes sont dans cette recherche à la clinique. L'objectif est d'atteindre le nombre de 600, souligne Sam Kadjo. Les populations migrantes peuvent avoir accès à la PrEP via les études PSARSA, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et NOVA, qui seront effectuées en 2025. Celle-ci vise à faire connaître la PrEP auprès des migrants ARSA, rappelle Sam Kadjo. Un migrant arrivant au Canada, surtout s'il a subi de la discrimination dans son pays d'origine, ne penserait peut-être pas à se protéger adéquatement et pourrait s'infecter. Des vidéos où des migrants parlent de leurs expériences avec la PrEP et comment ils peuvent se protéger avec des médicaments seront disponibles au cours de l'année. Nous désirons atteindre de 200 à 300 patients. Nous avons lancé un appel aux autres cliniques qui ont une clientèle de migrants parmi leurs patients. Il ne s'agit pas que des patients de la clinique actuelle, mais bien de rejoindre les migrants là où ils sont. Il en est de même pour plusieurs autres études, car cela peut faire bénéficier l'ensemble de la communauté LGBTQ+, plaide Sam Cadjo. D'autres recherches académiques portant sur les ITSS sont en cours ou seront menées en 2025. L'objectif de toutes ces études est d'améliorer la qualité de vie des personnes séropositives, de réduire les transmissions, de réduire la stigmatisation liée au VIH, afin que ces personnes puissent avoir une vie normale, être avec un conjoint qui sera protégé, également puisque l'autre conjoint sera indétectable et donc intransmissible, ou alors que cet homme-là soit sur la PrEP, et encore là, sera protégé et protégera les autres, insiste Sam Cadjo. On comprend que la base de données de la clinique médicale actuelle est des plus importantes. On y collige toutes données recueillies auprès des patients consentants, de manière anonyme, encore une fois, à ce que la clinique utilise ces données à des fins de recherche. On amasse ainsi des chiffres sur les différents aspects de l'intersectionnalité entre le VIH et d'autres maladies ou autres. Par exemple, combien de personnes sont à la fois séropositives et vivent avec l'hépatite C, ou combien sont aussi diabétiques, ou encore sont cardiaques, ou souffrent d'hypertension artérielle, ou utilisent des drogues, etc. Tout est colligé de manière anonyme, mais ce sont des données importantes qui permettent de faire avancer la science, les traitements, l'aide aux patients, etc., poursuit ici le coordonnateur de la recherche. Info, Clinique médicale l'actuelle, 1001 boulevard de Maisonneuve-Est, Montréal, 11e étage, bureau 1130. Téléphone 514-524-1001 ou site web cliniquelactuelle.com. C'était « Participer aux recherches pour améliorer les traitements VIH-SIDA », un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 24 janvier 2025 dans le magazine Fugue.